Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le VIH et le sida.
Avec l'appui d'autres participants, nous chercherons à répondre d'un point de vue biblique à quelques questions fréquemment posées par ceux et celles qui se trouvent confrontés au sida. Il faut rappeler que les interviews originaux avec ces participants étaient en anglais. Leurs interventions ont été traduites et leurs propos redits, joués par des francophones.
Pendant nos deux dernières émissions, nous avons abordé le sida, surtout dans une perspective médicale. Aujourd'hui, nous allons voir comment la Bible peut orienter la réponse de l'Église face à ce problème.
Le disciple chrétien est appelé à prendre soin de ceux qui souffrent de façon concrète et appropriée.
Nous allons écouter les propos de plusieurs chrétiens engagés dans la lutte contre le VIH et le sida.
Faraja signifie « confort » en swahili. C'est aussi le nom d'une association qui forme les églises au Kenya pour la lutte contre le VIH et le sida. Sa fondatrice, Josephine Muniwaki, explique comment elle en est venue à s'engager dans ce domaine en 1999.
À cette époque, le problème existait déjà, mais il y avait beaucoup de difficultés liées à sa stigmatisation. Avant de lancer Faraja, j'étais engagée dans un autre programme de lutte contre le sida dans un endroit appelé Korabodjo à Nairobi. J'y ai consacré 8 mois en tant que volontaire et c'est ainsi que je me suis intéressée au sida. Au départ, je pensais que ce problème ne me concernait pas, mais des proches et des amis ont contracté le sida. Et puis le temps passé à Korabodjo, j'ai ouvert les yeux. J'ai constaté que moi, simple institutrice, je pouvais faire quelque chose pour lutter contre le sida.
En Ouganda, Sam Mugot a mobilisé des églises pour qu'elles s'engagent contre le sida. Il a commencé en encourageant des femmes de son église à visiter des personnes atteintes du VIH. Voici comment il témoigne de l'impact de ce ministère.
Il y avait de l'amour et de la compassion. Puis d'autres églises aux alentours ont remarqué ce qui se passait et elles sont venues vers nous. 2 ans après nos débuts, nous avions formé 100 d'églises à fournir des soins à domicile et dans la relation d'aide. Un médecin spécialiste chrétien a fait un bilan de notre ministère et il a porté notre attention sur les problèmes des orphelins, des familles, des finances et de la jeunesse. C'est pourquoi nous avons débuté des cours de formation permettant aux églises d'agir avec plus de pertinence et d'efficacité. Dans notre région, nous avons formé plus de 1000 personnes qui sont maintenant diplômées pour donner des soins à domicile. Nous avons vu Dieu à l'œuvre, nous avons vu du changement, nous avons vu des gens venir à Dieu.
Le VIH et le SIDA sont de toute évidence une très grande tragédie. Mais comme Sam Mugot vient de le dire, cette maladie nous présente également des occasions pour parler de l'Évangile.
Susie Howe, de l'organisation Bethany Children's Trust, a vécu la même expérience. Elle décrit ce que le groupe de jeunes d'une église au Rwanda a décidé de faire pour les personnes atteintes du sida.
Après avoir écouté les gens de leur communauté parler du sida, ces jeunes ont décidé qu'ils allaient labourer des champs avec eux et y planter des pommes de terre et des choux. Dieu a vraiment béni ces cultures. Il y a eu des récoltes exceptionnelles et ainsi les personnes touchées par le VIH peuvent se nourrir et l'argent recueilli par les ventes peut être dépensé pour les médicaments.
Josephine Muniwaki, de Faraja, donne des conseils à ceux qui pensent ne pas beaucoup pouvoir contribuer à la lutte contre le sida.
Souvent, une visite et quelques mots suffisent pour encourager une personne malade. Vous pouvez leur lire la Bible et encourager cette personne à vos propres mots. Après tout, on n'a pas besoin d'aller au magasin pour acheter des mots. Nous pouvons penser avoir besoin de beaucoup de ressources pour prendre soin des gens qui vivent avec le sida. Mais il en est déjà très bien de commencer simplement avec le peu dont nous disposons. Par la suite, peut-être vos amis vous accompagneront et peut-être ceux-ci ou d'autres donneront éventuellement de la nourriture ou des vêtements. Mais au début, il faut utiliser le peu que vous avez. Trop souvent, les gens se disent qu'il faut laisser les assistants sociaux faire ce travail.
Dans la parole de Dieu, nous découvrons que Dieu se préoccupe du sort des nécessiteux. Par exemple, dans le psaume 146, au verset 6, il est écrit
« Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. »
Ça ne veut pas dire que les pauvres et les nécessiteux méritent plus que les autres de recevoir la faveur de Dieu. Non, l'amour de Dieu pour les pauvres s'appuie sur sa justice. Dieu s'oppose à l'oppresseur et il exige que son peuple suive cet exemple. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 15, verset 11, Moïse exhorte le peuple d'Israël à la générosité.
En fait, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays.
Ce verset souligne le fait que le peuple de Dieu a pour devoir de prendre soin des nécessiteux.
Colin Smith, qui travaille avec des églises dans les bidonvilles de Nairobi, au Kenya, explique que l'église ne peut pas fermer ses yeux aux besoins de ses propres membres.
Le corps de Christ souffre du sida. C'est une réalité. L'apôtre Paul dit que l'Église est un corps. Si une partie de ce corps souffre à cause du sida, le corps tout entier en souffre. L'Église doit s'engager dans la lutte contre le sida, parce que cette maladie existe dans nos assemblées, dans nos communautés et parmi les gens que nous côtoyons le dimanche matin. Certains sont infectés par le VIH. Ainsi, nous avons une responsabilité, en tant que corps, de prendre soin les uns des autres pour montrer que nous sommes réellement le corps de Christ.
Dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35, il est écrit
« Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Il est important de montrer l'amour de Dieu envers son peuple, qui sont nos frères et sœurs en Christ. Cependant, la Bible nous encourage à aimer les marginaux, les étrangers, ainsi que toute personne qui n'appartient pas au peuple de Dieu.
Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, les versets 37 à 40, Jésus répond à une question à propos du commandement le plus important.
Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. »
Notre prochain, c'est toute personne que nous pouvons être amenés à côtoyer au quotidien. À une autre occasion, un spécialiste de la loi a posé à Jésus la question que voici. Qui est mon prochain? Jésus y a répondu en racontant une histoire, la parabole du bon samaritain que nous trouvons dans l'évangile de Luc.
Les Juifs et les Samaritains se détestaient mutuellement. Cependant, l'amour du prochain dont parle Jésus, ne doit pas tenir compte de la race, de l'origine ethnique, de la classe sociale, de l'arrière-plan religieux ou du statut VIH de la personne que nous côtoyons. Dans Luc chapitre 10, versets 36 et 37, Jésus poursuit sa parabole avec une question.
Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien va et agis de même, lui dit Jésus. »
D'après Colin Smith, cette question « Qui est mon prochain ?» et sa réponse sont très pertinentes alors que l'Église se trouve confrontée aux problèmes liés au VIH et au SIDA.
Notre prochain, c'est toute personne autour de nous qui se trouve dans le besoin. Une personne qui vit avec le VIH ou le sida est notre prochain et la Bible nous demande de l'aimer concrètement. Le fait que quelqu'un ait le VIH ou le sida ne signifie pas qu'il n'est plus notre prochain. Au contraire, cette personne est plus que jamais notre prochain. Nous sommes appelés à nous conduire en témoins de Christ et à mener une vie de disciple qui reflète l'amour de Dieu. Nous devons donc laisser notre empreinte de disciple sur le terrain du VIH et du sida.
À présent, Sam Mugot nous fait part de quelques réflexions sur la parabole du bon samaritain.
L'histoire du bon samaritain est une histoire banale, mais qui doit orienter notre réponse quand les situations similaires se présentent à nous dans notre vie quotidienne. Cette histoire nous montre ce que Dieu attend de nous en tant que ses ambassadeurs qui doivent refléter son amour dans un monde brisé. C'est l'histoire d'un être humain présent aux côtés d'un autre qui est tombé dans un grand besoin.
C'est un sujet qu'il y a des parallèles entre l'Église moderne et les personnages religieux de la parabole du bon samaritain. Edward Simiyu, qui travaille avec les personnes touchées par la VIH au Kenya, va dans ce sens.
Je vois l'Église moderne dans cette parabole. Nous avons laissé les ONG et d'autres institutions laïques prendre soin de personnes atteintes du VIH et du sida. Pourtant, nous sommes le peuple. Nous sommes comme les prêtres et les lévites qui auraient dû prendre soin de celui qui souffre, mais qui trop souvent passent de l'autre côté sans rien faire. Que dit Jacques? La religion authentique et pure consiste à aider les orphelins et les veuves. Au Kenya, plus de 1,5 million de personnes vivent avec le sida, dont beaucoup sont de veuves et des orphelins. Qui prend soin d'eux? L'Église est très peu engagée et il faut y remédier.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette émission. Nous avons commencé à réfléchir en nous appuyant sur la Bible à l'engagement de l'Église face aux défis engendrés par le VIH et le sida. Nous approfondirons ces réflexions la prochaine fois. Nous espérons donc vous retrouver bientôt. Mais en attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.